Je vais revenir sur Biographème, bien sûr, qui n'est pas biographie. Et je dois dire que, pour commencer, j'ai toujours travaillé en ne suivant, par principe, j'allais dire, aucune ligne prédéfinie. Chevalard, qui a tenté de m'en faire suivre une, en sait quelque chose. Et j'ai donc développé avec constance, pourtant, semble-t-il, quelque chose qui caractériserait mes travaux et qu'on pourrait avoir transmis et qui aurait trait à une méthode, la méthode biographique. Or, ma conception de ce qu'était la méthode biographique, je le rappelle, m'a conduit à ne faire jamais la biographie d'aucun élève, parce que, justement, la vision holiste qu'il y a dans biographie fait croire qu'on peut tout mettre et tout comprendre de cela. Et donc, je ne vais pas le faire pour moi-même plus que ce que je l'ai fait pour les autres. Donc, je vais me contenter de quelques éléments de biographie dans le désordre et dont, le cas échéant, chacun aura peut-être du sens, mais dont je ne garantis pas un sens d'ensemble, parce que c'est le propre des biographèmes de ne pas construire systématiquement de la biographie. Ça s'intéresse à autre chose. On va voir ça. Donc, si la pente du récit l'emporte, c'est que je me laisse aller à mon côté bavard, mais normalement, je ne devrais pas avoir cette histoire. Deuxièmement, alors je respecterai l'horaire, c'est-à-dire je finis à 10h30, ce qui veut dire que j'ai 25 minutes. Ça va être dur, je m'arrêterai quand ça sera l'heure. Donc, cette journée est liée à une thématique relative aux méthodes. C'est une occasion bienvenue, et donc la méthode biographique d'approche du didactique est pour moi centrale, parce que pour pouvoir développer ça, il me semble qu'on a mis en place un certain nombre de techniques qui ont été utiles bien au-delà de la méthode elle-même, en particulier dans l'analyse de vidéos de classe et de séquences d'enseignement ordinaire. Je citerai, mais d'autres développeront ce dont il s'agit, l'analyse a priori ascendante de la transposition et les techniques de réduction de l'information préalable à l'identification d'épisodes, ce qui permet justement l'observation de biographèmes. Nous avons travaillé ça ensemble, principalement pour ces deux dernières, avec Gérard Sansevi et Maria Schuboer, et il me semble qu'en faisant ça, on a gagné des territoires nouveaux à la recherche en didactique, puisque nous avons permis de travailler, non pas dans le cadre d'une ingénierie, mais d'une observation clinique. Alors je dois dire que, de ce point de vue-là, il y a longtemps qu'on le faisait avec Chevalard, à qui chacun, beaucoup de gens savent, on a reproché de ne pas dire ses méthodes, parfois, et même souvent. Je dois dire que, poussé par André Thiberguien, l'usage de vidéos avec Transana et dans le cadre de Visa nous a conduit à mettre en place des éléments méthodologiques. Et je pense que d'autres en parleront au cours de la journée. Mais est-ce que moi, j'ai travaillé la méthode dans le cadre des travaux que j'ai dirigés ? Ben, assez peu, finalement. Si on reprend la première thèse que j'ai dirigée et qui a été soutenue, qui est celle d'Yves Matron, à côté là, il a travaillé sur la mémoire, les phénomènes mémoriels. Pour ça, il a regardé des épisodes biographiques pour des élèves. Mais je crois que le fait qu'il ait regardé ça n'a pas été au centre du tout de sa thèse. Il regardait les phénomènes mémoriels et la question de l'usage d'une méthode de constitution de biographème a été transparente dans ce travail. Romain Mario, qui est un de mes derniers étudiants, a regardé des épisodes de la biographie didactique de très bons élèves, hors classe. Mais il n'a pas encore publié, donc vous ne pourrez pas trouver ses travaux pour le moment. Et Géraldine Grimaud, je vous en parlerai tout à l'heure, c'est la dernière recherche doctorale que je dirige, et elle revient d'une façon un peu originale sur ces questions. On verra. Mais je dois dire que dans les questions de méthode, il faut intégrer quelque chose qui pour moi a été tout à fait essentiel, et je vais vous donner donc un biographème. Quand je suis revenu à l'INRP et que j'ai candidaté en 2000, j'ai dit que mon enjeu à l'INRP était de bénéficier des regroupements d'heures qui étaient distribués ici et là à des professeurs dans le but de irriguer la plaine. Et en fait, c'était une petite pluie fine qui arrivait, qui irriguait pas vraiment grand-chose. Et j'ai dit, on pourrait grouper les moyens en un ou deux endroits, ou trois ou quatre endroits, qu'on appellerait des lieux d'éducation associés, enfin, j'ai pas dit comme ça, mais qui seraient en fait des lieux avec lesquels l'INRP interagirait de manière forte. Et Jacques Colomb m'a dit, à peu près, si tu y arrives, c'est que les poules auront des dents. Je suis très très fier de voir qu'on y est arrivé et que les poules ont des dents, c'est-à-dire qu'il y a des lieux associés au travail de l'IFE et que l'école Saint-Charles à Marseille a été le prototype de cet ensemble de lieux d'éducation associés où l'on peut développer des recherches collaboratives. Et je crois que c'est aussi des questions qui ont à voir avec ce qui nous intéresse. Alors, épisode didactique, j'ai dit. J'essaye de décrire un peu ces questions-là, et je me suis demandé pourquoi je m'étais intéressé à ça, plus particulièrement. En 1979, j'ai soutenu un DEA en didactique des mathématiques, après avoir rencontré à l'IREM Chevalard et Brousseau, à l'IREM de Marseille. Et je me retrouve professeur dans le second degré, didacticien, militant ou bénévole, comme on veut. Mais chercheur reconnu, puisque, de fait, j'interviens dans les écoles d'été de façon régulière pour présenter des travaux. Et le problème, c'est que je n'ai pas accès à des données et je n'ai pas de moyens de développer des recherches personnelles. Alors, on participe avec le groupe de l'IREM, sous l'impulsion de Chevalard, à des travaux sur l'enseignement de l'algèbre, mais c'est un travail qui est collectif et ce n'est pas le mien propre. Alors, je développe un dispositif tout à fait particulier. Je fais des cours particuliers, gratuits, pour qui veut. Les enfants de mes amis, les voisins, etc. Et dans ces cours particuliers, j'essaye de mettre en place ou d'utiliser les ingénieries qu'on a regardées. Et ce sont pour moi des moyens d'observation. Et ce que j'observe, c'est bien sûr les élèves et la force de leur assujettissement au système didactique dans lequel ils sont. Et de ce point de vue-là, j'éprouve, dès le début, puisque le texte de la transposition didactique, c'est 81, à quel point ce qui est décrit dans la transposition didactique, le poids du temps en particulier sur les élèves, est tout à fait important. Mes élèves veulent faire les exercices que le professeur leur a donnés, étudier la page du livre sur lequel ils vont être interrogés et préparer l'interrogation écrite, point. Ils ne veulent pas savoir quels sont les exercices relatifs à la notion étudiée. Ils ne veulent pas étudier la notion à l'étude, ils ne veulent pas comprendre les questions auxquelles elles permettent de répondre. Ce n'est pas leur problème. C'est-à-dire qu'ils sont complètement assujettis au quotidien immédiat de la classe. Et ces contraintes du temps, c'est ce que je vais éprouver, et je les éprouve par l'observation des élèves qui viennent chez moi pour ces cours particuliers. Et finalement, j'essaye de créer pour eux des épisodes didactiques, c'est-à-dire des temps dans lesquels ils pourraient se poser des questions eux-mêmes et en tirer quelques enseignements. Voilà le premier élément, disons, le premier biographème. Alors, c'est intéressant parce qu'on est dans le cadre de la théorie des situations à ce moment-là, on travaille dans ce cadre-là principalement, et je dois dire que ce que l'on observe, c'est pour voir des épisodes, des changements de stratégie. Ce qui suppose qu'on a un modèle de l'action didactique des élèves. Ils sont dans une situation, ils sont pris dans une situation qu'ils n'ont pas déterminée, et ils essayent de développer des stratégies dans cette situation pour agir. Et d'une certaine façon, la stratégie que développe l'un, si elle est économique, est reconnu par les autres qui s'en emparent. Cette théorie économique est tout à fait intéressante parce que c'est finalement, si on la comprend comme je viens de le dire rapidement, l'élève dont parle Brousseau est un élève collectif. Ce n'est pas un élève épistémique, comme d'aucuns ont pu le dire dans la revue Recherche en didactique des mathématiques. Hélas, à mon avis, c'est un élève collectif, c'est-à-dire qu'on a la théorie de la production de savoir par un collectif qui étudie. Et si on le pense comme cela, c'est tout à fait intéressant parce que on s'aperçoit qu'il n'y a pas, a priori, de bonne pratique d'enseignement. C'est une pratique descriptive de dans quelles conditions un collectif s'empare d'un certain nombre de savoirs. Alors, le problème, c'est que j'ai écrit ça une fois, et puis ça a été publié dans un ouvrage à Montréal, qui a été diffusé à environ 3 exemplaires, je pense, qui s'appelle « Le cognitif et le didactique », et sous la direction de Gisèle Lemoine, que je remercie pour m'avoir invité à une séance du REF à l'époque, et François Cohn. Alors, c'est intéressant de le penser comme ça, parce que ça faisait assez référence à ma formation spontanée de la façon suivante. Pour moi, je considérais, en tant que militant politique, j'ai été longtemps militant politique avant de faire de la didactique, et presque professionnel, j'ai longtemps considéré qu'il fallait considérer les sujets comme pris dans des institutions qui définissaient un espace dans lequel ils pouvaient exister et être reconnus. Et ce qui est intéressant dans une institution, c'est qu'elle est définie par son enjeu et que sa force instituante tient à son enjeu. Et l'enjeu d'une institution didactique, c'est le fait qu'on doit apprendre et donc on est reconnu dans la mesure où on apprend. Et on est reconnu parce qu'on y apprend ou parce qu'on fait ce qu'il faut pour y apprendre. Alors, ces questions sont tout à fait intéressantes pour moi. Et l'idée qu'on apprend en entrant dans une institution ou qu'on apprend, j'allais dire, avec une théorie de l'apprentissage collectif ou institutionnel, est tout à fait intéressante. Ça va me servir personnellement à la chose suivante. Entre 1979 et 1989, comme didacticien amateur, je suis de fait autodidacte. Ça signifie que aucune des tentatives de publication que je fais n'aboutit. Soit les idées sont considérées comme nouvelles et n'ont pas été présentées par un chercheur auparavant, soit les idées sont considérées comme connues et l'appareil, j'allais dire, de preuves empiriques que je fournis et qui viennent de mon lieu d'observation, les cours particuliers, est considéré comme non valide. Ce qui fait que, oui, je suis un chercheur reconnu, sauf qu'on ne sait pas jamais sur quoi je cherche, je ne peux pas publier. Et je m'aperçois que pour publier, il ne faut pas être un autodidacte, il faut être un universitaire et il faut changer de position institutionnelle. Et c'est comme ça que je vais donc m'inscrire en thèse et entrer en recherche. Alors c'est assez intéressant parce que ça vous dit que les systèmes de publication ou de correspondance qu'on avait à l'époque où il n'y avait pas de chercheurs professionnels ne fonctionnent plus du tout aujourd'hui et qu'il faut y aller autrement. Et quand je rentre en recherche, en fait, deux textes me fondent mon travail. Un qui s'appelle « Esquisse d'une théorie formelle du didactique » de Chevalard, qui définit trois objets fondateurs pour penser le didactique, qui sont des termes très très génériques, « domaine de réalité, objet et institution ». Je vous conseille de revenir à ce texte. Et puis... un autre qui montrait que l'approche des institutions pouvait se faire soit du point de vue institutionnel, en regardant leur enjeu et ce qu'elles produisent, soit du point de vue des sujets, en regardant justement une approche biographique. Et c'est à ce moment-là qu'on met en place une méthode d'approche biographique avec la notion d'épisode et de biographème. Alors voilà, donc... il faut considérer que dans notre travail, nous considérons institution au sens le plus large possible et, le fait que les acteurs disent qu'il n'y a rien à savoir dans leur action instituée ne signifie pas que, pour un didacticien, il n'y a pas de savoir ou de connaissance. Et c'est en ce sens que nous nous rapprochons des anthropologues des savoirs. À l'époque, je pense à Delbos et Jorion, qui étaient la référence incontournable, et à leur manière de décrire comment il y a du savoir là où les acteurs vous disent qu'il n'y a rien à savoir, il n'y a qu'à faire. Donc, je pense que c'est tout à fait important, ce genre de choses, et cette position. Elle vient d'une... Quand j'ai dit qu'on était militant politique, elle vient de cela, c'est-à-dire que les militants politiques de l'époque apprenaient à l'intérieur du syndicat étudiant et de la mutuelle des étudiants un certain nombre de choses, parce qu'on y fréquentait des sociologues, des psychologues, il y avait Lapassade, il y avait Guattari, il y avait Toscaïès. Et donc l'intervention sociale était quelque chose qu'ils nous connaissaient. Et la mise en œuvre de ces connaissances dans le cadre d'autres institutions a été particulièrement intéressante pour nous. Alors, biographème, élément de sens minimaux d'une biographie. J'ai repris le mot, je ne l'ai pas inventé. Il est dans Roland Barthes par Roland Barthes, qui est un ouvrage de la collection L'auteur par lui-même. Sauf que dans L'auteur par lui-même, ce n'est pas l'auteur qui présente ses propres textes, tandis que Roland Barthes présente lui-même ses propres textes. Donc il détourne le jeu de la biographie. Et comme il fait lui-même sa biographie, enfin son texte supposé biographique, en fait, il ne donne que des biographèmes, en disant ce que j'ai dit sur la biographie au début. C'est donc la référence, si vous voulez, biographème et pas biographie, et pourquoi, vous le trouvez dans le Roland Barthes par Roland Barthes. Alors, c'est assez intéressant parce que cette position-là, donc, signe la position critique de Roland Barthes sur la façon de décrire l'œuvre de quelqu'un par sa biographie, en particulier. Et c'est ça qui le met dans cette position-là. Alors ça signifie quoi ? Ça signifie que finalement, quand on observe un biographème, ce que l'on voit par le bout de ce biographème, c'est l'espace dans lequel il se produit, la situation, en fait. Et donc les biographèmes sont des révélateurs des propriétés des situations. Alors non pas les situations telles que dans l'ingénierie, on met en place pour que le sujet apprenne, et puis ensuite on regarde si le sujet rentre bien dans la situation qu'on veut, mais celle, par l'autre bout, que de fait un sujet pense et dans lequel il agit, c'est-à-dire celle qu'il a. Alors je sais que ça choque qu'on dise qu'on a une situation, on la rencontre, en marseillais on dit on l'encape, c'est-à-dire qu'elle vous arrive, et qu'on n'a pas le choix de cette situation-là. Mais en revanche, il faut qu'on la pense, et c'est la façon dont on la pense et dont on l'interprète qui définit l'action. Et donc, les propriétés de la situation sont révélées par les biographèmes que l'on peut y voir. Et c'est finalement ce que va montrer ma thèse, à mon avis. Le seul problème... C'est le suivant, c'est que du coup, la situation n'est plus la situation produite par l'action d'un professeur pour qu'un groupe produise du savoir, mais la situation ayant permis un biographème pour un sujet. Et c'est, transforme évidemment la position sur la notion de situation. Et bien que j'ai utilisé toute ma vie situation, je... peut dire en reprenant ça que je l'ai utilisé dans un sens qui n'est pas vraiment celui de Brousseau. Et je pense que Brousseau a dû s'en douter, parce que quand j'ai proposé le titre de ma thèse, le titre qui a été choisi a été finalement « L'élève et les contraintes temporelles de l'enseignement, un cas en calcul algébrique ». Le mot de biographie et de biographème ne figure pas dans la thèse. Quand j'ai voulu l'y mettre, Brousseau m'a dit « Tu vas quand même pas faire une thèse de métadidactique ». C'est-à-dire, tu vas faire un discours sur les méthodes d'approche de la didactique. C'est une thèse de didactique que tu fais, pas une thèse de métadidactique. Alors évidemment, quand j'ai publié 3 ans plus tard dans RDM l'article, qui, j'ai dit « Biographie didactique des élèves, le cas du calcul algébrique ». Mais c'est quand je me suis approprié ma question, que j'ai remis en avant la notion de biographie, qui a été en fait censurée, j'allais dire dans le titre, par Brousseau. Je pense que le fait que ça remettait en cause un certain nombre d'éléments de la théorie des situations, il en a été conscient, ou en tout cas, il y avait quelques doutes là-dessus. Alors, c'est vrai que ça nous a conduit, et je reviens à des choses tout à fait récentes, au fait de reparler de jeu. Et je voudrais reparler de jeu en montrant comment même jeu, c'est plus la notion broussaldienne de jeu qu'on a aujourd'hui quand on travaille en didactique. Brousseau, lui, a tenté de fonder la théorie des situations sur des choses recevables par les mathématiciens, et donc une théorie des jeux, qui était la théorie mathématique des jeux, modèle descriptif du rapport des élèves au domaine de réalité qu'offre une situation. Et pour lui, l'élève joue contre la nature, comme joueur collectif, hein, je le rappelle. Donc il incite les élèves qui imaginent une stratégie efficace à la rendre publique, à s'en emparer, et les élèves s'en emparent si elle est économique à l'usage. Et il fait un calcul de coût à l'apprentissage et de coût d'usage des savoirs pour voir si telle situation a une chance d'abaisser le coût d'usage suffisamment pour que le groupe classe paye le prix du coût d'apprentissage. Ce qui suppose et donne une stratégie déjà de didactique, on ne doit pas proposer un exercice nouveau, puis un autre, puis un autre, puis un autre, parce que les élèves, avec leur soumission au temps, ratent le premier. C'est pas grave, on va changer de chapitre. Ah non, il y en a un autre, mince. Bon, c'est pas grave, on va changer de chapitre. Ah non, il y en a un troisième, mince. Bon, c'est pas grave, on va changer de chapitre. Et un élève qui n'est pas un bon sujet de l'institution peut très bien, comme ça, se trouver pendant 2 ans en attendant qu'on arrête enfin de parler de cette question qui le met en échec, alors que cette question est fondamentale et qu'il va être en échec tant qu'il ne s'y attaque pas. Et 2 ans plus tard, c'est trop tard, d'une certaine façon. C'est-à-dire que c'est un vieux truc que plus personne va se donner la peine de vous enseigner. Brousseau montre que pour qu'on voit le coût de l'économie que représente une connaissance, il faut proposer aux élèves tout un ensemble de problèmes qui montrent que c'est un grand problème que l'on aborde et que ça va mériter qu'on fasse l'effort de payer le coût d'apprentissage parce que le coût à l'usage va être faible ensuite. Et cette question-là doit être une stratégie didactique du professeur, et c'est complètement fondamental. Et j'ai vu effectivement des cas où un enseignement rate parce que le professeur, au lieu de dire « aujourd'hui nous allons attaquer un grand problème », dit « je vais commencer par un petit exercice ». Et ça ne fonctionne plus. Si c'est un petit exercice, on peut passer, on peut continuer à parler avec son voisin. Alors, le raisonnement, pour moi, est un raisonnement... on a appelé ça économique, disons, hein, et effectivement, ça ressemble au raisonnement marxiste sur la manière dont est fixée la valeur des choses, et l'on sait que la valeur moyenne tient à la technologie qui est disponible, la valeur moyenne du travail. Ça ressemble à cette théorie-là. Alors, c'est la position de Brousseau, mais dans le cadre de la théorie qu'on a développée aujourd'hui, et qui pose un principe de symétrie pour penser l'action du professeur et des élèves, jeu a un tout autre sens. Ce n'est plus du tout le jeu mathématisé avec une théorie économique. C'est un terme du modèle où le jeu n'est pas défini nécessairement et complètement par le professeur, mais il doit être défini ensemble par le professeur et l'élève. Pour autant, le jeu du professeur n'est pas le jeu de l'élève. C'est un jeu sur le jeu de l'élève. Donc, bien qu'il y ait un principe de symétrie dans le jeu auquel joue l'élève, dans les actions qu'aura l'élève, et on va voir que l'élève peut définir le jeu ou proposer des gestes de régulation du jeu, pour autant, ce n'est pas le jeu du professeur, c'est le jeu de l'élève. Et le jeu du professeur, c'est que l'élève gagne au jeu qu'il a à jouer et pour lequel il doit apprendre. Donc on voit que la notion de situation a bougé là aussi, au sens où le jeu que Brousseau appelait le jeu adidactique, d'un joueur contre la nature, est devenu un jeu des élèves et du professeur, et dans une référence, avec de construction d'une référence commune qui permet de poser une catégorie de problèmes. Et dans ce mouvement-là, on retrouve des éléments de la dialectique broussardienne, mais pas tous. Alors, c'est assez important pour aller regarder ce que les méthodes ont à voir maintenant. Il me reste 5 minutes. 10.
Bon, d'accord, un rap.
Alors, deux points. Donc, juste, je vais sauter beaucoup de mes choses. Je pense que si la didactique doit avoir des méthodes pour observer le didactique, ça doit être des méthodes qui sont spécifiques de son objet. Et les explications doivent être didactiques dans le monde didactique, et donc nous devons produire des phénomènes, et ces phénomènes supposent une théorie. De ce point de vue-là, la référence qui me vient est une référence à la position de Claude Bernard sur la médecine expérimentale, où il montre très bien que dans la médecine expérimentale, on ne peut pas expérimenter, mais que ce n'est pas un phénomène spécifique à la médecine expérimentale. Les astronomes non plus n'expérimentent pas. Ils peuvent faire des expériences de pensée et imaginer des situations et puis voir si ces situations se réalisent, mais ils ne peuvent pas expérimenter au sens de l'expérimentation. Donc c'est une science dure, et pourtant ce n'est pas une science expérimentale. D'autres sciences ont des propriétés de ne pas être expérimentales au sens de l'expérimentalisme. Et je pense que la didactique ne peut pas être une science expérimentale au sens de l'expérimentaliste. Alors, le problème d'une science qui soit expérimentale et non expérimentaliste, c'est que la théorie est première. Et dans notre histoire, la méthode par production de biographèmes suppose une théorie de l'objet d'investigation. Et en gros, ce que je vous ai montré, c'est des mouvements, des réinterprétations de la théorie qui a été produite, de façon à pouvoir mettre en place une méthode biographique et d'avoir une théorie qui correspond au dispositif d'observation et qui permet d'en rendre compte. Et la méthode des biographèmes, donc, montre des stratégies d'action en situation, ce qui fait pour nous, donc, que les explorateurs de la situation sont les sujets qui agissent. Et pour les observateurs, donc, leur stratégie révèle les propriétés du jeu qui autrement seraient invisibles. Alors, pour nous, donc, les situations sont contingentes, construites par l'observateur comme moyen d'interpréter les actions des sujets observés. Et donc, ce sont les écosystèmes des biographèmes observés. Et de ce point de vue-là, je suis en accord avec ce que dit Chevalard, qui dit que la réinterprétation de la théorie des situations didactiques est une réinterprétation écologique contre une interprétation première qui était économique. Effectivement, on a cette position-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire dans le temps qui me reste ? La chose suivante. On observe donc l'apparition et l'évolution de rapports personnels et collectifs à des objets qu'un sujet social produit ou explore. Ce faisant, ce sujet social s'identifie ou se pense, devient sujet d'un groupe ou d'une institution auquel il appartient ou cherche à appartenir, un groupe où ces objets sont présents et où un type de rapport à ces objets est institué. Alors, pour vous montrer jusqu'où on va quand on fait cela, je dois dire que je remercie, je n'aurai pas le temps de remercier beaucoup de gens, mais je remercie mes étudiants pour leur sujet de thèse si divers et acrobatique que j'ai dû à chaque fois tout réapprendre. Et je dois dire que le fait que je les ai assez systématiquement acceptés avec leur sujet m'a conduit à voir des choses que d'autres n'auraient pas vues. Géraldine Grimaud est venue travailler avec moi en me disant « Je veux travailler sur l'apprentissage chez les chimpanzés. » y a-t-il une possibilité d'interpréter en didacticien ce qu'ils font ? Alors voilà. On regarde un jeune chimpanzé, donc Géraldine Grimaud et par procuration moi-même, un jeune chimpanzé Pantroglodytes de la forêt de Thaï, en Guinée, qui un beau jour s'empare d'une noix Kula et d'Ulysse, laissée par sa mère, partie en récolter de nouvelles. Alors, je ne donne pas d'interprétation pour le moment. Il vient la percuter d'abord directement sur l'enclume laissée libre par sa mère. Puis, il s'en sert pour frapper la noix que sa mère a laissée en position sur l'enclume. Et il porte à sa bouche la noix frappée, qui n'est pas cassée, parce qu'il n'a pas frappé avec un percuteur lourd et massif. Sa mère a emporté le percuteur. Il vérifie son échec et intervertit les deux noix. Prend la noix qui lui a servi de percuteur, il la place sur l'enclume, prend l'autre et la frappe. Sans plus de succès. Et il s'en va. Voilà un épisode. Un peu plus tard, ce même jeune, ou un autre plus âgé, parce que finalement les observations sont rares et que des épisodes comme ça, on en a peu, mais un autre, mais plus âgé, s'empare du percuteur laissé cette fois par sa mère pour frapper une noix placée sur l'enclume. Nous disons que les jeunes chimpanzés s'engagent dans l'apprentissage du cassage de noix parce que l'institution sociale mère-enfant a chez les chimpanzés une fonction éducative. Ou en tout cas que, comme ils s'emparent de ça, l'institution sociale a une fonction éducative. Alors, est-ce qu'on peut argumenter cette question ? Ben oui, cette institution permet l'engagement dans l'action de l'enfant. Elle détermine les conditions, le milieu matériel et le système d'attente qui font le jeu. Par exemple, à l'enclume de la mère, quand la mère va chercher de nouvelles noix, si un autre petit que le petit de la mère vient, il y a bagarre. Donc il y a bien attribution de cette enclume à cette père, mère, enfant. Ensuite, la mère laisse à, exprès ou pas, on n'en sait rien, parce que la mère ne manifeste pas d'intention que nous sachions observer. Mais la mère laisse parfois des noix, et on regarde si elle les laisse systématiquement, quel que soit l'âge du petit, ou à partir d'un certain âge. Parfois le percuteur, on regarde quand est-ce qu'elle le laisse ou qu'elle ne le laisse pas. Et quand le petit n'arrive pas à frapper les noix, elle partage le contenu de la noix. Donc il y a bien un milieu et un système d'attente qui fait pour l'enfant un jeu. Sauf que ce n'est pas la mère qui définit explicitement le jeu, et que c'est l'enfant, le jeune chimpanzé. Alors voilà comment on peut aller regarder si... Eh bien, question qui se pose, est-ce que le comportement du jeune influence le comportement de la mère ? Par exemple, que se passe-t-il quand la mère revient à l'enclume ? Est-ce que le jeune lui laisse la place ? Est-ce qu'elle recasse la noix qui est là ? Est-ce que elle partage ou pas des noix à nouveau, eh bien, c'est, si vous voulez le savoir, je vous invite à la soutenance de Géraldine Grimaud au mois de septembre, si tout va bien. Voilà. Mais c'est pour montrer que la question de description, j'allais dire, de qu'est-ce que c'est que la création d'un biographème et comment on l'attribue à une situation, est devenue, j'allais dire, un moyen d'observation très, très générique du didactique dans des endroits où on n'imaginerait pas, a priori, qu'il y en ait, et bien ailleurs qu'à l'école, et que c'est ce que j'appelle une position anthropologique pour le didactique, c'est d'avoir gagné cette capacité à aller regarder bien au-delà de l'école et des murs de l'école, mais aussi, bien sûr, à l'intérieur des murs de l'école, ce qu'il s'y passe et le rapport entre l'apprendre et le faire apprendre, même lorsque le faire apprendre est aussi faible que ce que je viens de vous montrer là. Voilà, je vous remercie d'être tous si nombreux. Et puis, je crois qu'on me fait réintervenir tout au long de la journée et que ce que je n'ai pas dit, les autres en parleront.
Même demain, oui.
À vous. Merci.